Du mardi 6 au dimanche 11 mai 2003, Nairobi, Nauru, Moru, de mission en mission. Hier, nous avons retrouvé Douglas chez lui pour mettre au point l'itinéraire. Nous avons évoqué la possibilité de tenter l'ascension du mont Kenya, 4985 mètres. Douglas semble aimer les défis et les exploits. Il est tout de suite emballé. Martin en avait aussi rêvé. À mi-parcours, nous nous arrêtons au pied du point culminant du Kenya. Imma et Isaac semblent très fiers de voir leur mari et père prendre le départ. Martin est tout heureux de s'asseoir sur la selle et de donner le premier coup de pédale. Cyrano se lance. Je les suis avec Noisette, chargée, mais sans copilote. Un tandem chargé à faire avancer tout seul, c'est possible. Néanmoins, j'attends avec impatience de retrouver mon coéquipier afin de pouvoir rouler plus facilement. Il nous faut une petite heure pour rejoindre Douglas au centre de Nairobi. Il a contacté plusieurs journalistes et commencé les interviews sans nous. Le lieu de rencontre et point de départ n'est autre que l'ancien site de l'ambassade américaine, détruite lors d'un attentat terroriste le 7 août 1998. Nous le retrouvons face aux journalistes. J'ai perdu la vue lors de cet événement. J'ai eu de la chance, car 224 personnes sont décédées. J'en ai été bouleversé, et je veux désormais montrer au monde entier qu'il faut œuvrer et lutter pour la paix. J'ai pleuré lorsque j'ai appris l'attentat contre les tours jumelles à New York. Mon combat doit être celui de tous les hommes afin d'empêcher des catastrophes évitables. Ce rallye, je le place sous le signe de la paix. Je pédalerai pour la paix dans le monde. Martin, Jean-Christophe et moi, écoutons et découvrons des motivations que nous ne connaissions pas. Cet équipier nous réserve des surprises depuis notre rencontre. Malgré ce qui m'est arrivé, j'ai pu ramasser les morceaux et repartir. Je veux transmettre cette force qui m'a permis de me relever pour inspirer ceux qui ont tendance à se plaindre alors qu'ils pourraient utiliser leur énergie dans des choses étonnantes. Quelques membres de la Kenyan Union of the Blind et son président sont venus nous retrouver. Nous pouvons prendre le départ. L'équilibre sur le tandem chargé n'est pas évident. Je sens la masse musculaire de Douglas. Il appuie fort sur les pédales. Il me faut coordonner mes mouvements pour rester en selle. Quelques zigzags au premier tour de roue. Nos mouvements s'accordent progressivement. Il a beau avoir de l'expérience, c'est la première fois qu'il se retrouve sur un tandem chargé de sacoches de part et d'autre des roues. Cela me rappelle notre départ le 6 juillet dernier. Pour la première fois, je pédalais sur Noisette avec les sacoches accrochées et lestées. Sur les deux premiers mètres, j'ai bien cru qu'on allait tomber. Un petit coup de guidon bienvenu m'avait permis de m'en sortir au dernier moment. Je suis maintenant habitué aux manœuvres de départ. Le premier jour est toujours le plus difficile. La coordination avec mon coéquipier se fait par tâtonnement. Ensuite, c'est un jeu d'enfant. La sortie de la capitale n'est pas triste. La circulation est dense et nous oblige à slalomer entre les voitures et les matatus. Ces minibus sont identiques aux daladala tanzaniens. Il ressemble aussi au car rapide sénégalais. Peinture vive, carrosserie défoncée, poste de musique plus puissant que le moteur, surcharge de voyageurs, leurs chauffeurs s'en donnent à cœur joie avec le klaxon et font leur loi dans la jungle urbaine. J'en profite pour tester ma dernière acquisition, une corne klaxon. Le son est puissant et me permet de faire entendre le tandem quand le besoin se fait sentir. Les chauffards sont alors tout surpris de voir surgir un long vélo. Ici, c'est la loi du plus bruyant. À peine sortis du centre, nous entamons une longue et lente montée. Elle a le mérite d'être régulière. Impossible d'en voir la fin. Douglas n'aime pas être derrière Cyrano. Dès qu'il l'entend se rapprocher, je sens un coup d'accélérateur dans les pédales. Nous reprenons de l'avance. Malgré la pente, nous avançons à un bon rythme. Lors des pauses, je sens que Martin a plus de mal. Souvent, un stand de fruits est le bienvenu pour nous redonner des forces. Oranges, pommes, bananes, nous avons le choix. Tout le monde accourt pour nous regarder. Je me suis rapproché de Martin, il me dit. À chaque pause, c'est la même chose. Quand j'explique où nous allons, tout le monde me dit que nous n'y arriverons pas. Ensuite, les gens parlent entre eux. Les hommes discutent des tandems. Quand ils ne savent pas comment ça marche, ils inventent tout. Les femmes se font du souci pour nous, les aveugles. Les enfants admirent les deux blancs. Je lui demande de le répéter à Douglas et Jean-Christophe. Nous en rigolons bien. Je me suis aperçu que Douglas ne parlait pas ou peu le Swahili. Seul Martin est capable de comprendre ce qui se passe autour de nous. La côte est de plus en plus rude. J'essaye de parler avec Douglas, lui décrivant le ciel gris, les nuages qui nous menacent, les grandes étendues de verdure sur les côtés de la route. Il ne dit rien. Je comprends que ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est rouler et aller vite. Pour la première fois, je me retrouve dans le même état d'esprit. J'y réfléchis en roulant. Ce que j'aime le plus en tandem, c'est de pouvoir discuter, partager mes impressions avec mon coéquipier. Pourtant, aujourd'hui, je me sens fatigué. La selle a recommencé à me faire mal, mais je sais que c'est temporaire. Ça vient, ça part. Mis à part cela, je me sens en pleine forme physique. Alors, d'où vient cette fatigue ? En entamant les conversations avec Douglas, j'ai senti l'effort que ça me demandait. C'est la première fois. Certaines personnes sont plus faciles d'accès que d'autres. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne me dérangeait pas. Depuis le premier jour, j'ai vécu ce projet sous le signe de la rencontre. Le premier pas, c'était à nous de le faire. L'Afrique, ses habitants se sont ouverts à nous à peine le pied posé. Il nous a fallu nous présenter en premier, discuter, briser la barrière blanc-noir que nos couleurs de peau imposent. Nous sommes étrangers et nous voulons vous connaître, partager quelques heures de nos vies avec vous. C'est une attitude qui a été pour moi naturelle depuis le début. Je commence à comprendre ce qui a changé. Cette fatigue que je ressens, c'est une fatigue mentale. J'ai des courbatures dues aux efforts accomplis depuis 11 mois pour rencontrer tant de personnes et communiquer avec elles. Je commence à sentir l'énergie que ça demande d'aller au-devant de chacun, d'écouter et d'échanger. Je comprends le confort que représente le fait de marcher dans la rue les yeux baissés, sans avoir à dire bonjour. Rester dans son petit monde est moins fatigant. Je viens de découvrir une limite à ma soif d'aventure et de rencontre. La date de notre retour n'est plus très loin. J'ai largement assez de ressources jusqu'au 6 juillet 2003. Après 1 an à ce rythme, je serai content de me reposer un peu. Je lève mon nez du guidon. J'aperçois un grand panneau à 100 mètres. Nous atteignons un point d'inflexion. C'est une bonne nouvelle. J'ai l'impression que Martin a de plus en plus de mal et je comprends vite pourquoi. J'arrive à lire. Great Reef Valley, altitude 2600 mètres. Je regarde ma montre altimètre. C'est bien ça. Elle m'indique, en plus, que nous avons fait 1000 mètres de dénivelé depuis ce matin. On a roulé à un très bon rythme. Nous redescendons vers Kijabé, un village protestant réputé austère. Nous y arrivons de nuit. Cette localité a été construite pour vivre en totale autonomie. Une garderie, une école primaire, un collège pour les garçons, un collège pour les filles, une école biblique, une imprimerie biblique et un centre commercial assurent tous les besoins. Martin nous explique qu'il y est interdit de boire de l'alcool, de fumer, de fréquenter les filles et de s'habiller n'importe comment. De jeunes étudiants de nos âges, en formation pour devenir pasteurs, viennent vers nous. Ils proposent de nous héberger dans leur dortoir. Nous acceptons. Ils nous laissent détacher les sacoches, puis nous disent « Please, come with us. We will show you where the hotel is. » Venez avec nous. On va vous montrer où est l'hôtel. On vient de déposer les bagages sur les lits des dortoirs. Pourquoi aller à l'hôtel ? Martin a déjà dit oui. Nous suivons. Je comprends en arrivant. L'hôtel n'est autre qu'une petite cafétéria pour se restaurer. Le gérant nous prend d'affection et nous sert copieusement. Jean-Christophe remarque une photo de magazine épinglée sur le mur, un tandem. Il nous explique. « J'ai trouvé ce vélo bizarre et drôle, c'est pourquoi je l'ai affiché. Nous te réservons une surprise demain matin. » Je rédige ensuite le journal de bord avec Martin. Il conclut ainsi. « Ici, tout le monde est très gentil. La seule chose qui me manque, c'est une bonne bière et un verre de vodka. » Notre ami restaurateur nous attendait pour le petit déjeuner. En nous voyant arriver avec les tandems, il s'exclame. « Mais ce sont des limousines, ces vélos !» En sortant de chez lui, au loin, on peut voir un cratère, Mont Logonot. L'ascension peut se faire dans la journée. Ce sera un bon entraînement en vue du Mont Kenya. Il nous faut descendre à travers une piste difficile. 300 mètres de dénivelé technique sur un tracé sablonneux, caillouteux par endroits pentus. Nos trois mains crispées sur les freins, nous avançons doucement, le temps pour moi d'analyser chaque obstacle qui nous fait face. Le village en bas nous permet de nous restaurer. Il est déjà midi. Un aveugle vient nous retrouver. Il discute longuement avec Martin. Les conditions de vie dans les villages et à Nairobi sont très différentes. Dans chaque pays, nous faisons le même constat. Les aveugles ont beaucoup de mal à trouver leur place dans les villages. Dans les grandes villes, les associations leur permettent de se réunir et de suivre des formations. Martin me confirme ce que je pense. En Afrique, un aveugle a souvent plus de chances de s'en sortir en ville que dans un village. Le cratère nous fait face. Il a fallu pousser les tandems sur 4 km de sable noir. Douglas et Martin se font vite aux techniques d'escalade élaborées au cours de nos différentes ascensions. Les deux mains sur les épaules ou sur les hanches, ou l'une sur l'épaule, l'autre sur la hanche, en fonction du terrain, la technique change. La pente est raide. Dès qu'il le peut, Douglas utilise les touffes d'herbe, les cailloux et les racines pour se hisser. Je lui indique à la voix où placer sa main. Parfois, il a déjà trouvé une prise, alors que je n'ai pas commencé à lui expliquer. Il me dit « Chaque pas nous rapproche du sommet. » Il n'est plus qu'à 10 mètres, nous y sommes. Douglas s'assoit et fait une prière. Nous contemplons la végétation dans le cratère, une petite forêt dense. Un singe pourrait le traverser d'arbre en arbre. D'où nous sommes, on a l'impression d'être au-dessus d'un tapis de mousse. La descente est aussi difficile. Nous glissons, dérapons souvent. Nous tombons à plusieurs reprises. Plus de rire que de mal. Une église catholique est située près du volcan. Douglas souhaite aller à la messe le lendemain matin. Nous y arrivons sous la pluie. Le père Fernando nous mène dans les anciens locaux d'une école. Nous sommes sales tous les quatre. Seul Douglas a le courage de se laver avec une bassine d'eau froide sous la pluie. C'est au tour de Douglas de rédiger à mes côtés le journal de bord. Il insiste sur ses impressions au sommet du mont Loggonaut. Là-haut, on s'est retrouvé dans un petit havre de paix. Les oiseaux chantaient, le vent soufflait. Je sens que nous sommes au sommet. Rien ne nous dépasse. Tout se passe en contrebas. Cette paix qu'on y trouve, tout le monde devrait pouvoir la vivre un jour. En discutant avec lui, je découvre que ce qui lui est le plus difficile, c'est de devoir accepter d'être dépendant de nous. À Nairobi, je me débrouille car je connais ma maison, mon quartier, j'y ai mes habitudes. Je lui explique. Tu sais, nous sommes dans le même cas que toi et Martin. Sans vous, nous ne ferions pas le quart de ce que nous faisons. Nous dépendons les uns des autres. C'est ce qui nous permet d'avancer. Il m'impressionne par sa capacité à se repérer dans les nouveaux lieux. Il suffit de lui indiquer une fois les toilettes, de faire un tour de la pièce où nous allons dormir. Il se déplace ensuite tout seul. La nuit, il se lève sans nous réveiller. Il est beaucoup plus indépendant qu'il ne le pense, beaucoup plus que la plupart des aveugles avec qui nous avons pédalé. La cloche a sonné. Elle ne marque pas le début des cours, mais indique le départ. L'itinéraire est amusant. Plusieurs cyclistes nous accompagnent. Certains veulent voir jusqu'où nous allons tenir. Ils font demi-tour après quelque temps. D'autres s'arrêtent là où ils doivent se rendre. Nous traversons un péage. Je n'en crois pas mes yeux. Les barrières sont défoncées, Douglas m'explique. Le gouvernement avait mis en place des péages afin d'entretenir certaines routes. La corruption a fait échouer le projet. Les routes restent gratuites et défoncées. Un stand en bord de route attire notre attention. Jean-Christophe explique à Martin et Douglas. La vendeuse discute avec d'autres femmes. Un babouin s'est approché par derrière et lui a volé une grappe de banane. La femme n'y a vu que du feu. Plus loin, de magnifiques zèbres traversent la route. Ils s'enfuient en nous voyant arriver. La pluie s'abat sur nous. Pas d'abri. Il faut continuer à rouler. Pendant 15 kilomètres, nous avançons sous des trombes d'eau. Les vêtements trempés, les chaussures imbibées, nous poursuivons notre chemin. Le soleil repointe son nez et nous permet de nous sécher. C'était une bonne façon de se laver sans perdre de temps. Face à la cathédrale de Nakuru, un prêtre nous accoste. Impressionné par notre aventure, il nous propose le gîte et le repas. Moi, c'est la charpente de l'édifice qui m'impressionne, et je prends congé de mes amis pour retrouver mon violon. Je vais faire ma prière sous forme de récital dans la cathédrale. Chaque son s'amplifie dans l'espace. J'apprends à utiliser cette réverbe dans mes improvisations. Ce violon m'étonne toujours. Acheté dans une brocante il y a quelques années, retapé, il me servait de violon tout-terrain pour le camping, les concerts rock, là où j'avais peur d'abîmer mon beau violon. En l'utilisant presque tous les jours en Afrique, je me suis rendu compte à quel point le son d'un violon se construit au fur et à mesure qu'il est joué. Ce violon n'avait pas été joué depuis plus de 20 ans. Il revit désormais sur les routes et pistes d'Afrique. Le son que j'en tire n'est plus le même que celui du départ. De même, les improvisations ont changé. 3 personnes sont entrées sans que je les remarque. Jean-Christophe, Martin et Douglas se sont assis et écoutent. Plus tard, Martin me dit « Je t'écoutais, et ta musique m'a fait penser à ma femme et mon fils. Je les imaginais dans le salon, pensant à leur mari et père en train de pédaler. Ce fut un moment magique. » La route que nous reprenons est symbolique. Nous allons passer l'équateur. Un faux professeur nous fait la démonstration de la force de Coriolis. En se positionnant au-dessus de la ligne imaginaire de l'équateur, il fait couler de l'eau d'une bassine trouée où flotte une allumette dans une autre bassine. L'allumette ne bouge pas. Nous nous éloignons de 10 mètres vers l'hémisphère nord. L'allumette se met à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. À 10 mètres, en direction de l'hémisphère sud, elle tourne dans l'autre sens. Cette force a une influence sur de nombreux phénomènes à la surface de la Terre, notamment le sens de la circulation de l'air autour des dépressions. Le cours de physique est terminé. Nous venons de vérifier empiriquement nos quelques connaissances météorologiques. Il est temps de nous attaquer à une montée redoutée. Nous en voyons le sommet. Environ 350 mètres de dénivelé. Une épingle à cheveux au milieu, il faut s'élancer. Nos visages ruissellent. Les jambes se font lourdes. Les mains tentent d'arracher le guidon du goudron. L'effort est soutenu. Une heure plus tard, nous pouvons entamer la redescente sur Nauru. Ce soir, nous dormons dans une église. Les bancs sont suffisamment larges pour que nous puissions les utiliser comme sommiers. Le père qui nous a accueillis nous dévisage au petit matin. « Vous voulez aller en haut du mont Kenya ?» Deux jeunes Français ont failli y mourir par manque d'oxygène il y a quelques mois. Quand j'étais jeune, je me lançais des défis aussi. Mais celui-ci est trop dangereux. Ne tentez pas cette ascension. Il répète cette phrase plusieurs fois. « Don't climb Mount Kenya ». Nous le quittons en le remerciant. Nous sommes tous les quatre attirés par cette ascension. Nous nous rapprochons du but. La pluie reprend. Nous commençons à être habitués à rouler mouillés. Cyrano doit faire 2 pauses réparation sous les averses. À la première, Jean-Christophe change rapidement un maillon de la chaîne qui s'est cassé. À la deuxième, il s'agit d'un câble de frein cassé. La réparation est un peu plus longue. Dans un village, un homme demande à Jean-Christophe d'essayer le tandem. Martin lui explique comment le manier. Il ne l'écoute pas et s'élance à toute allure. Le tandem penche à droite, à gauche. Martin rétablit in extremis l'équilibre depuis l'arrière. Les villageois laissent échapper des cris à chaque virage. Le tandem s'arrête, Martin est soulagé. Lui, qui était le moins sportif de nous quatre, a démontré qu'il était devenu un pro du tandem. Il a fait du rodéo avec un pilote déchaîné. Notre approche cycliste du mont Kenya prendra 2 jours. Les dénivelés ne sont plus aussi importants que lors de notre grimpette sur le plateau. Le relief est cependant moins régulier. Il faut monter, descendre sans arrêt. La végétation est très verte. Nous longeons la plaine du Grand Rift, un territoire de pâturage qui s'étend à perte de vue. Le décor est proche des dessins d'enfants représentant un grand jardin avec quelques arbres. Le vert des crayons de coloriage est proche de celui que je peux voir. Souvent, nous demandons à combien de kilomètres nous nous situons de Narumoru. Les distances nous sont indiquées en Kenyan shilling, monnaie kenyane, ou en kilomètres. D'une personne à l'autre, l'unité et l'appréciation ne sont pas les mêmes. Le plus souvent, c'est le prix du trajet en matatu qui est utilisé comme référence. Au détour d'un virage, je vois pour la première fois s'élever un énorme rocher dans les nuages. Le mont Kenya est tout proche. Nous arrivons en milieu de journée à Narumoru. Nous passons l'après-midi à recenser et comparer les guides pour l'ascension du mont Kenya. Les tarifs sont bien moins élevés qu'en Tanzanie, mais reste exorbitant comparé au coût de la vie au Kenya. Je fais le compte de ce que nous avons dépensé depuis notre arrivée au Kenya. Le coût de l'ascension, incluant la location de matériel, est légèrement supérieur. Une bourse reçue quelques mois après notre départ nous permet de couvrir ces frais non prévus dans le budget initial. Il nous faut prendre le temps d'expliquer à Martin et Douglas ce montant qui sera déboursé. cela pourrait paraître insultant de dépenser sans réfléchir plusieurs mois d'un salaire kényan en 4 jours de randonnée. La marche en montagne est une activité que nous pratiquons beaucoup en France. Nous partons toujours avec des amis qui connaissent et partons très rarement avec un guide. Ici, c'est différent. Nous ne voulons pas prendre de risques, car nous allons monter haut en altitude sur une montagne que nous ne connaissons pas. Une bourse française nous finance ces ascensions. C'est grâce à elle que nous pouvons partir avec vous, tenter ce sommet. Vous avez pu découvrir le sommet du mont Loggonaut. Vous verrez que le mont Kenya est encore plus impressionnant. Leur réaction est plus simple que prévu. Vous avez de la chance d'avoir en France des organismes qui financent ce type de projet. Nous n'avons pas ça au Kenya. Nous avons la chance de pouvoir en profiter ensemble. À la fin de l'après-midi, nous avons trouvé un guide et des porteurs. Ils se chargent de la logistique. Le temps n'est pas stable. Castol, notre guide, est confiant. On verra bien comment c'est là-haut.